Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Bonjour Frédéric Lordon.
Bonjour.
Vous êtes économiste, philosophe. On vous a notamment beaucoup entendu il y a quelques mois au moment de Nuit Debout. Nuit Debout, paraît-il, est en train de renaître de ses cendres. On voit à nouveau des comités fleurir un peu partout. On écoute Nuit Debout, première version.
Le mécontentement, la frustration est bien, bien supérieure. Enfin, va au-delà de la loi.
Et vous venez ici pour essayer de réfléchir, pour trouver des idées nouvelles,
tout à fait.
Pour faire quoi?
Oui, exactement, c'est-à-dire envisager une autre façon de faire de la politique, envisager une autre société.
Qu'est-ce que vous réclamez dans cette France d'aujourd'hui?
De l'écoute, ça veut dire les citoyens, c'est pas on ne donne pas un blanc-seing pendant 5 ans et puis tu réformes comme tu veux et tu fais ce que tu veux et rendez-vous aux prochaines élections.
Diriez-vous, Frédéric Lordon, que le mouvement est en train de renaître, qu'il n'a jamais cessé d'exister?
Je n'en sais rien, pour tout vous dire. Il m'arrive de temps en temps de faire un détour par la place de la République, de regarder ce qui s'y passe, et je vois qu'un peu de vie politique y a repris. Je m'en réjouis. Quant à savoir si on pourrait assister à une renaissance en bonne et due forme, enfin à quelque chose qui aurait l'ampleur de ce qui s'est passé au printemps, je dois dire que mes capacités de pythoniste sont un peu dépassées. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais enfin, la braise rougeoie sous la cendre et c'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors vous êtes avec nous pour ces deux parties des matins. On va donc évoquer différents sujets. Vous publiez Les affects de la politique aux éditions du Seuil, Frédéric Lordon, un livre où vous montrez à quel point les passions, selon vous, ont un rôle essentiel dans le domaine de la politique, à quel point elles ne doivent pas être négligées. Vous dites finalement que ce qui pourrait passer pour irrationnel n'est en rien méprisable. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, il faut commencer en effet par dire quelque chose de la proposition générale de cet ouvrage. Lorsqu'on dit il y a des passions en politique, on livre un énoncé avec lequel beaucoup de gens peuvent spontanément se retrouver d'accord, mais jusqu'à un certain point seulement. Et toute la proposition théorique de ce livre, c'est d'amener le lecteur au-delà de ce certain point qu'il refuse de dépasser. Alors qu'il y ait de la passion en politique, bah oui, ça, les gens l'accorderaient aisément. Les uns veulent pendre les autres à un croc de boucher, les autres veulent marcher sur les uns de préférence du pied gauche parce que ça porte bonheur, etc., etc. Bon, bah, c'est normal, c'est la politique, c'est un monde d'emportement, etc. Mais par ailleurs, ajoute-t-on, la politique, dans son acception la plus haute, c'est aussi une question d'idées, de principes, de valeurs, d'argumentation, de discussion rationnelle, si possible, etc., etc. Et c'est évidemment là que naît le dissensus. Car la proposition spinoziste est d'une toute autre nature. La proposition spinoziste consiste à dire que le terme d'affect doit être compris bien au-delà de ce que l'esprit commun ou le sens commun contemporain reçoit sous ce mot. Par affect, on entend en général les émotions. Alors, l'usage typique du mot d'affect, c'est « ah, c'est un affectif, il est trop dans l'affect » ou bien au contraire, il est sans affect, etc., etc. Bon. Mais les affects chez Spinoza, c'est bien plus que les émotions. Affect, c'est la dénomination la plus générale de l'effet produit par une chose sur une autre. Donc, en particulier, de l'effet produit par un homme sur un autre, ou par un groupe d'hommes sur un autre groupe, par la multitude sur chacun de ses membres, etc., etc. Et, dans ces conditions, sous cette redéfinition extrêmement étendue, les idées cessent d'être un terme antinomique aux affects et aux passions. Et on le sait bien en réalité d'une certaine manière, car les idées ne nous touchent que dans certaines conditions particulières. Et ces conditions, c'est précisément qu'elles soient accompagnées d'une certaine manière par des affects. Et c'est cela même qui nous rend sensibles à ces idées.
Et dans ce livre, on peut trouver, ou en tout cas moi, j'ai cru trouver une critique de ce que vous appelez les petits producteurs intellectuels, éditorialistes, experts, hommes politiques, universitaires, ce que Bourdieu appelait les demi-savants, qui pensent que les idées dominent le monde, qui pensent en réalité, selon vous, que leurs idées dominent le monde. Ils ont tort ?
Oui, en effet, tout dépend de ce qu'on entend exactement par idée. C'est ça la question. Spinoza prend le mot d'idée au sérieux, c'est-à-dire qu'il considère les idées dans leur dimension purement idéelle. Et dans ces conditions, montre-t-il, car c'est là effectivement tout le centre de l'affaire, tout ce dont j'essaye de parler, en tant qu'elles sont considérées comme purement idéelles, les idées n'ont pas d'effet sur les corps. Elles sont incapables de déterminer des mouvements de corps. Spinoza dit de manière imagée, l'idée du chien ne mord pas. Or, en effet, les petits producteurs, ceux que j'appelle à la manière de Bourdieu les petits producteurs intellectuels, ont eu tendance à soutenir la thèse que les idées mènent le monde au terme d'un syllogisme qui était cousu de fil blanc, puisque l'idée est que si les idées mènent le monde et que nous sommes les producteurs d'idées, alors c'est nous qui menons le monde. Mais si l'on suit la ligne spinoziste, il n'en est rien. Les idées ne mèneront le monde qu'à certaines conditions très particulières, et ces conditions sont d'ordre passionnel, à savoir que si ces idées sont accompagnées d'affects qui ont été produits adéquatement pour qu'elles puissent affecter le plus grand nombre, puisque c'est ça l'affaire de la politique. Et d'une certaine manière, moi, il m'a semblé que Marx avait dit ça à sa façon, dans, je crois que c'était la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, où Marx dit à peu près ceci, les armes de la critique ne sauraient remplacer la critique des armes, mais la théorie peut devenir une arme si elle s'empare des masses. Alors là, tout est dit, si vous voulez. Les armes de la critique, bah oui, en effet, c'est ce que produisent les intellectuels ou les petits producteurs d'idées. Ne saurait remplacer la critique des armes, c'est-à-dire, d'un point de vue métaphorique, l'action politique en marche. Bon. Pour que la théorie devienne une force efficace, il faut qu'elle réussisse à s'emparer des masses, et ma thèse est que cet emparement est d'ordre passionnel. C'est cela dont j'essaye de faire la théorie. On a toujours de bonnes raisons de se révolter. Alors on pourrait partir d'une intuition dont je vous accorderai le caractère un peu rustique, mais qui me paraît assez robuste et bien fondée, c'est que les gens, en général, les salariés en particulier, ont une préférence pour la tranquillité. C'est une lutte vis-à-vis de soi-même de se déclarer mécontent, de se déclarer souffrant, de se mettre en grève, de descendre dans la rue, et l'on y descend que si l'on a été déterminé à y descendre. Voilà. Donc il faut s'intéresser à ces processus de détermination si on veut comprendre quoi que ce soit aux crises sociales.
Mais alors, vous êtes à la fois philosophe, économiste, on vous doit un certain nombre d'ouvrages d'économie. Pourquoi dans ce cas-là, ne pas en quelque sorte éclairer le débat public, pourquoi ne pas prendre la tête de cette mobilisation? Nuit debout avait pour but de conduire à une mutation sociale, je ne sais pas quel terme lui donner, on a l'impression que ça s'est arrêté en rase campagne, même si ça renaît. Est-ce que vous n'avez pas finalement des regrets, Frédéric Lordon, de ne pas avoir pris de manière plus concrète la tête du mouvement?
Aucun regret, pour plein de raisons. Nuit debout avait pour but, etc., avez-vous dit. Mais je ne sais pas si Nuit debout avait un but en réalité. Bon, mais bien sûr, dans l'esprit des initiateurs de Nuit debout, il y avait quand même quelques intentions et quelques finalités. Mais je pourrais dire qu'il s'agissait des finalités génériques, que quelque chose se passe enfin. Quelque chose se passe enfin dans cette vie politique qui est définitivement congelée par les institutions de la Ve République, et que quelque chose ne peut s'y passer que si on contourne ces institutions.